Dans l'actualité des idées aujourd'hui, une histoire des inégalités avec au bout du chemin la question qu'on se pose tous en ce moment, le monde sera-t-il plus inégal encore au sortir de la crise sanitaire? En exergue de son livre, cette citation qui en dit long, que les riches disparaissent et la pauvreté est abolie. Notre invité aujourd'hui est historien, il est autrichien, professeur à Stanford en Californie. Walter Scheidel vit aux États-Unis et son ouvrage phare, Une histoire des inégalités, est enfin traduit en France, préfacé par Louis Chauvel. Alors pourquoi ce livre est-il important? Pourquoi on vous en parle? Aujourd'hui, notre sociologue français Louis Chauvel, spécialiste du déclassement, souligne sa voix parfaitement discordante, celle de cet historien, puisqu'il contredit l'idée reçue selon laquelle les sociétés civilisées iraient vers le progrès et la réduction des inégalités. Après le succès du livre de Thomas Piketty en 2013, Louis Chauvel présente cette histoire des inégalités comme le chaînon manquant pour qui aimerait lire le Capital, général aux grandes civilisations du monde. Bonjour à vous, Walter Scheidel.
Hello, thank you for having me on your program.
Merci à vous et bonjour à votre voix française, Michel Slotowski. La question des inégalités, Walter Scheidel, n'est-elle pas d'abord l'affaire des économistes? Pourquoi un historien s'est-il intéressé à cette question?
Parce que les économistes s'occupent du passé récent, alors que les historiens, eux, doivent expliquer des sujets tels que l'inégalité en venant du fin fond de l'histoire. C'est pour ça que je remonte à des millénaires et aussi loin que c'est possible.
Effectivement, c'est une histoire des inégalités de l'âge de pierre au XXIe siècle et vous êtes, vous, un spécialiste de la Rome antique. Voilà donc que vous plongez maintenant dans cette histoire monde des inégalités. Pourquoi avoir eu cette envie? Qu'est-ce que vous avez cherché en entamant ce long voyage?
En fait, j'étais inspiré par Piketty, qu'on vient de mentionner. Je voulais savoir si ses idées sur l'inégalité dans le passé ont été réduites par les chocs d'événements majeurs. Est-ce que cette position était vraie à travers l'histoire? Et donc, moi qui ai l'expérience de l'histoire antique, j'étais équipé pour le faire, pour étudier cette question. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pour voir si c'était cette dynamique principale qui s'était développée au cours des diverses périodes de l'histoire pour expliquer ce qui s'était passé et dans quelles conditions.
Contrairement à une idée largement répandue, Walter Scheidel, vous nous dites que civilisation et inégalité vont de pair. Comment ça?
Mais oui, revenons à l'âge de pierre, quand les gens ont commencé l'agriculture, quand on a commencé les droits de l'agriculture, les droits de propriété, quand on a commencé à donner en héritage les choses aux générations suivantes, les inégalités sont apparues à ce moment-là. Et elles ont été amplifiées à travers le temps. Si vous ajoutez, par exemple, les États, les structures étatiques et politiques, tous les partis, tous les États soutiennent les riches et beaucoup d'autres inégalités sont apparues dans le même temps. Plus il y a de civilisations par le passé, plus on a trouvé d'inégalités économiques allant de pair avec cela.
Comment vous définissez les inégalités? À partir de quel indicateur?
Je me suis appuyé sur les inégalités économiques, sur la façon de le mesurer. Par exemple, la part du revenu de toute la fortune, quel était le pourcentage de la population qui possédait le plus de choses. Par exemple, des outils statistiques pour mesurer l'inégalité à travers une population entière. J'ai appliqué tout ce que je pouvais appliquer comme mesure dans mes recherches. C'est ce que font les économistes quand ils considèrent les sociétés actuelles. Je l'ai fait pour les sociétés anciennes.
Voilà, mais on peut imaginer qu'effectivement ces indicateurs ont évolué au fil des siècles. Est-ce qu'il y a des archives qui existent et qui vous ont permis de remonter si loin?
Parfois, on peut remonter aux sociétés les plus anciennes. Vous avez des textes, des listes, des distributions ou des redistributions des richesses des gens, les actifs que ces gens ont laissés. Et puis, au cours du Moyen Âge, vous avez des données plus granulaires sur la richesse et aussi sur les revenus. Et puis, il faut être créatif. J'ai utilisé beaucoup de données archéologiques. Vous pouvez considérer quelles sont les inégalités, par exemple, par la taille des habitations des gens. Si vous avez quelques très très grandes maisons et énormément de petites maisons, ça indique un certain degré d'inégalité au sein de cette population. Donc plus vous remontez dans le passé, plus vous devez être créatif pour pouvoir générer quelque chose qui ressemble à une statistique sur l'inégalité.
Alors on va revenir un peu à l'origine de cette histoire des inégalités avec un moment, le moment peut-être initial, que vous appelez en anglais, j'espère Michel Sotofsky, je ne vais pas écorcher vos oreilles avec mon accent, the great disequalization. Alors vous avez un peu fait souffrir votre traducteur d'ailleurs, Cédric Weiss, pour ce mot. Il l'a traduit par déségalisation. Qu'est-ce que vous appelez, vous, la grande déségalisation ?
La grande désécalisation, c'est au début de l'Holocène, à la fin de l'âge glaciaire. Les gens sont finalement installés, ils ont développé l'agriculture, ils ont développé l'élevage et ils ont accumulé les richesses parce qu'ils ont accumulé des ressources matérielles et ils ont contrôler les achats, les ventes, pour pouvoir repasser des actifs aux générations suivantes. Et si vous faites ça pendant un certain temps, finalement, c'est inévitable. Les inégalités vont prospérer, elles vont durer, certaines familles vont devenir riches, d'autres seront pauvres. Et avec le temps, lorsque le pouvoir politique est devenu plus important, les structures politiques, les institutions comme l'esclavage, le féodalisme, la féodalité, allaient renforcer ces inégalités et s'assurer que le petit nombre qui était au sommet de la richesse allait pouvoir conserver le pouvoir sur ceux qui étaient en bas de l'échelle.
Voilà, il est déjà question à ce moment-là de patrimoine, d'héritage et de ce fossé des inégalités qui se creusent de génération en génération. Les inégalités, elles augmentent sans cesse, racontez-vous, dans cette grande histoire des inégalités, Walter Scheidel. La norme de cette histoire, d'ailleurs, c'est la violence. Les moments de repli, que vous qualifiez de moments de nivellement, ils sont somme toute assez rares, et quand ils se produisent, ils naissent toujours des chocs les plus violents. Ces chocs, vous les appelez les quatre cavaliers du nivellement, comme les quatre cavaliers de l'Apocalypse du Nouveau Testament. Quels sont ces quatre chocs ?
Les quatre chocs sont tous violents. Deux d'entre eux reviennent très très en arrière, des milliers et milliers d'années, avec l'État qui était en faveur des riches. Eh bien, lorsque les États s'écroulent, les inégalités cessent. Enfin, il y avait des riches et il y avait des pauvres. Et lorsqu'il y a eu la chute de l'Empire romain, ça a nivelé beaucoup de choses. Le deuxième choc, c'était les pandémies, les épidémies. Pensez à la peste au Moyen Âge, où un tiers de la population européenne est morte. Ça a créé un manque de bras pour le travail. Les employés, les travailleurs ont pu demander plus une paye plus élevée. Donc les riches qui avaient des terres ont dû engager des bras et les payer. Et l'inégalité a diminué en raison de cela.
Ça, c'est la deuxième. Et maintenant, la troisième et la quatrième.
Troisième, quatrième, ce sont des chocs modernes qui apparaissent au XXe siècle et qui résultent de l'industrialisation. Le troisième, c'est une mobilisation massive de la guerre comme Première et Seconde Guerre mondiale. Et le quatrième choc, c'est les révolutions communistes comme en Union soviétique et la Chine. J'ai pas besoin de parler du communisme, c'est évident. Le communisme voulait réduire l'inégalité en confisquant la richesse et en la redistribuant, en nationalisant les usines, les terres et en planifiant l'économie. Ce serait normal de réduire l'économie à un niveau très, 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 très bas. Mais dans les sociétés libres, les deux guerres mondiales ont eu le même effet parce que plusieurs choses sont arrivées en même temps. Par exemple, les retours sur capital, par exemple, les gains capitalistiques ont été détruits. Il y a eu des régulations économiques de l'État. Il y a eu des impôts extrêmement élevés imposés sur les riches pour payer l'effort de guerre, pour qu'il y ait de l'emploi. Et il y a eu beaucoup de destruction physique, il y a eu beaucoup d'entrepôts, il y a eu beaucoup d'usines qui étaient la propriété des riches ont été détruites. Et donc tout a été fait pour que les riches deviennent moins riches, y compris en France.
Voilà, ces quatre cavaliers, ces quatre types de ruptures brutales ont affaibli les inégalités. Vous venez d'expliquer longuement le quatrième cavalier, la révolution dite transformatrice. Vous avez évoqué aussi la grande pandémie, vous imaginez bien qu'on va y revenir. Et puis aussi la guerre de masse et la faillite de l'État. Alors on va s'arrêter un instant sur cette causalité-là, la faillite de l'État. Vous écrivez, Walter Scheidel, l'effondrement de l'État pousse à l'extrême la logique du nivellement par la violence. Au lieu d'effectuer une redistribution et un rééquilibrage en réformant et en restructurant les systèmes politiques existants, il agit d'une manière plus radicale en remettant les compteurs à zéro. On va prendre un exemple que vous connaissez bien, puisque je le disais, vous êtes un spécialiste de la Rome antique. On va prendre l'exemple de la chute de l'Empire romain. Pourquoi ça n'a pas été une catastrophe pour tout le monde ? En quoi ça a été une bénédiction pour l'Europe, comme vous l'écrivez ?
C'était pas sympa pour les gens qui ont vécu cette période. Mais si ça vous intéresse, l'égalité ou l'inégalité, très très peu de familles possédaient des milliers d'esclaves et la quasi-totalité des terres. Et maintenant, tout cela a disparu en tant que classe, la classe des riches. Mais pour les gens sur le terrain, pour les fermiers, ceux qui avaient leur propre ferme, beaucoup de choses n'ont pas changé. En fait, la situation s'améliorait parce que les collecteurs d'impôts romains avaient disparu et les seigneurs de la guerre ont disparu aussi. Donc il y avait plus de désordre, mais la vie n'était pas pire pour la plupart des gens dans la population en général. C'est les très riches qui ont beaucoup souffert à ce moment-là.
Il aura fallu combien de temps avant que les inégalités retrouvent le niveau qu'elles avaient à Rome avant la chute de l'Empire romain ?
Probablement longtemps, je dirais 5 siècles à peu près, jusqu'au Moyen-Âge, avant le second millénaire, parce que les choses bougeaient très très lentement dans l'ancien monde. Ça prenait beaucoup de temps et d'efforts pour reconstruire les structures qui exploitaient les gens, les opprimaient et créaient des inégalités de possession.
Vous écrivez, Walter Scheidel, ces grandes inégalités sont très profondément ancrées dans l'histoire. Il y a 2000 ans, dans l'Empire romain, les plus imposantes fortunes privées étaient environ 1,5 million de fois supérieures au revenu annuel moyen par habitant, à peu près le même ratio qu'entre Bill Gates et l'Américain moyen actuel. En somme, le degré extrême des inégalités de revenus dans l'Empire romain n'était guère différent de celui que connaissent aujourd'hui les États-Unis. Voilà un exemple qui parle et qui parlera, j'imagine, à ceux qui nous écoutent. Invité jusqu'à 13h30, Walter Scheidel, à l'occasion de la parution de son Histoire des inégalités, de l'âge de pierre au XXIe siècle, préfacé par Louis Chauvel. On a pris ce premier exemple détaillé de la faillite de l'État. Il y en a un autre, vous l'évoquez, la guerre de masse, que vous distinguez de la guerre tout court. La guerre de masse, l'exemple, c'est les deux guerres mondiales. On retourne après la Deuxième Guerre mondiale avec cette voix, celle de l'abbé Pierre.
Mes amis, au secours. Chaque nuit, ils sont plus de 2000, recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière, dans la nuit, à la porte de lieux où il y ait couverture, paille, soupe, et où on lise sous ce titre « Centre fraternel de dépannage » ces simples mots « Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange ». Reprends espoir, ici on t'aime.
14 ans après sa mort. La voix de l'abbé Pierre lors de son célèbre appel du 1er février 1954 sur les ondes de Radio Luxembourg. Il appelait à créer ce qu'on appellera l'insurrection de la bonté. Les guerres, en quoi les guerres vont permettre un reflux des inégalités, Walter Scheidel ?
Eh bien, les guerres créent énormément de souffrances, mais ce n'est pas évident au premier abord. Mais quand vous regardez les données, ils frappent plus les riches que les pauvres, tout simplement parce que les riches ont plus à perdre. Si vous êtes pauvre d'entrée, vous ne pouvez pas être beaucoup plus pauvre, sinon vous mourrez de faim. Ce qui se passe dans les guerres, la plupart des gens survivent. Mais si vous êtes très riche, vous pouvez perdre quasiment tout, mais vous pouvez toujours être vivant. Vous pouvez perdre vos usines, vos actions et perdre tout ce que votre famille a construit au cours de générations. Et c'est ce qu'on a vu pendant la Seconde Guerre mondiale en particulier. C'était vraiment la fin d'un ordre établi qui a frappé les capitalistes et les gens qui avaient beaucoup de propriétés. Ça les a frappés très fortement, sans aucun dédommagement.
Oui, voilà, les deux guerres mondiales ont peut-être abouti à une réduction des inégalités, même si on sait que certains ont aussi profité de la guerre pour s'enrichir. Mais ce qui est sûr, c'est que ces guerres n'ont pas permis un repli de la pauvreté, d'où cet appel de l'abbé Pierre à prendre en considération ceux qui n'avaient plus rien, son appel à une insurrection de la bonté. Ces crises qui permettent au niveau des inégalités de se réduire, vous dites aussi qu'elles ne durent qu'un temps. Ces chocs-là n'ont qu'un temps. Pourquoi ?
On n'a pas parlé des effets après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a une certaine chose de choses qui se produisent après. C'est l'état de bienfaisance, la redistribution pour les pauvres. Vous voyez les syndicats qui s'établissent beaucoup plus fortement, qui ont un sens de solidarité plus important. Vous voyez l'extension du droit de vote. Il y a plus de démocratie dans beaucoup de pays. Toutes ces choses-là arrivent en même temps. Et c'est important au cours de l'époque après la guerre, avec cette croissance économique qui viennent après véritablement des périodes de grande dépression. Pensez à la grande dépression américaine. Et les avantages de cette croissance sont mieux distribués au départ, juste après. Et ceux qui en bénéficient le mieux, c'est la population qui est en bas de l'échelle. Mais c'est unique dans l'histoire. Et ça serait impossible de répéter ce type de processus.
Mais les chocs, toutefois, donc un temps, dites-vous, Walter Scheidel, pourquoi ? C'est une pente naturelle, le retour des inégalités.
Si vous regardez au très long terme, ce n'est pas naturel, parce que vous le voyez à chaque fois. Il faut une génération ou deux pour que les effets des guerres mondiales diminuent, disparaissent. Et au moment où on arrive aux années 70-80, le monde est prêt pour quelque chose de totalement inverse. Et c'est ce qu'on a vu au cours des 40 dernières années. Et c'était pas très surprenant, parce que si vous regardez l'histoire au long cours, il est beaucoup plus commun de voir des périodes d'inégalité croissante, ce qui s'est produit depuis les années 80, plutôt que de voir où c'est l'inverse.
Voilà, ce que vous dites, c'est que ce nivellement reste éphémère, hein, que le fossé ensuite va se poursuivre. Les inégalités et les civilisations vont de pair. Les civilisations les plus développées sont aussi les plus inégalitaires. Alors bien sûr, la question qu'on se pose aujourd'hui concerne le dernier cavalier, la pandémie, puisque nous sommes en ce moment dans une pandémie de coronavirus. On se demande si le choc sera suffisant pour permettre une réduction des inégalités dans ce que sera peut-être ce monde de l'après. Walter Scheidel, pensez-vous que le choc actuel est suffisant pour engendrer un changement ?
Excellente question. Beaucoup de gens me la posent. La réponse, en bref, c'est non, pour un certain nombre de raisons. Une, c'est que la pandémie de Covid, elle n'est pas suffisamment désastreuse. Ça n'a rien à voir avec la peste, ni aussi énorme que la grippe espagnole. Quelques millions de gens vont mourir, certes, Mais proportionnellement, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé précédemment. Il n'y aura pas de manque de bras pour le travail. Il y a d'autres raisons aussi. Les sociétés sont devenues meilleures dans leur façon d'absorber ces chocs. Regardez, on a suffisamment d'aide pour les gens qui perdent leur travail. Nous avons ce qu'on appelle maintenant, pour les banques internationales, le quantitative easing, ce qui signifie que les banques vont avoir suffisamment de cash flow, d'actifs circulants, pour pouvoir surmonter cette crise. Nous avons vu que moins d'un an après l'explosion de la COVID, vous voyez qu'on peut avoir cette interview sur Skype, et il y a suffisamment de techniques, et comme si de rien n'était. C'est très différent de la façon dont le monde était au cours d'un passé récent, et même dans un passé plus ancien. Donc non, je ne pense pas que les inégalités seront réduites à cause de la pandémie, mais ça aura l'effet contraire. On l'a déjà fait, on l'a déjà vu. Certaines personnes sont protégées, celles qui travaillent de chez elles, celles qui ont une éducation plus développée, les jeunes ou les personnes qui appartiennent à des minorités travaillaient dans des secteurs d'activité qui n'existent plus, eh bien, tous ceux-là n'ont plus de travail. Et ces gens-là, s'ils tombent malades, ne pourront même pas se soigner. Donc, on a vu un accroissement des inégalités en raison de cette pandémie.
Oui, et en raison du progrès. Donc, en somme, le progrès ne permet pas la réduction des inégalités. En revanche, il permet que ce soit le progrès technologique ou dans des domaines comme les politiques de santé, avec les États-providence, il permet de réduire les chocs, ces fameux 4 chocs, ou notamment celui de la pandémie que vous évoquez, et qui ont permis dans l'histoire des mouvements de repli de ces inégalités. Nous sommes au lendemain d'un sommet, du sommet de Davos. Et durant ce sommet, Oxfam, l'ONG, a rendu son célèbre rapport. Les inégalités ont augmenté, nous dit Oxfam, depuis le début de la crise. On écoute Cécile Duflo, qui est directrice générale de Oxfam France.
Les inégalités se sont accrues. On est déjà sur un terrain, puisque depuis 20 ans, dans 7 pays sur 10 dans le monde, les inégalités augmentent. Et la crise a accentué cette situation, puisque les milliardaires ont mis, les 110 milliardaires les plus riches du monde ont mis 9 mois pour récupérer leur richesse d'avant la crise, alors qu'une grande partie de la population mondiale est fragilisée, et notamment les plus pauvres. Alors la particularité de cette crise, c'est une crise qui est une crise inégale, c'est-à-dire qu'elle a été très violente pour certains, et notamment les plus fragiles déjà, et parmi eux les femmes, et elle a été finalement pas si grave, voire même positive, pour certains qui se sont enrichis pendant cette crise. Et cet argent qu'ils ont gagné, pour qu'on se rende compte, il pourrait financer l'intégralité de la vaccination de toute la population mondiale et en plus le filet de sécurité qui empêcherait toute la population vulnérable de sombrer dans la pauvreté. Donc il faut se rendre compte du niveau assez délirant finalement d'aggravation de ces inégalités. Il y a une concentration de la richesse entre les mains de quelques-uns qui est devenue, nous le pensons, à Oxfam insupportable.
Voilà, qui va dans votre sens, hein, Walter Scheidel, et qui ne rend pas franchement optimiste. Vous avez fait le même constat. Le niveau des inégalités aujourd'hui est assez bien raconté, qualifié là par Cécile Duflo d'Oxfam France.
Je pense tout à fait, oui, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. Les inégalités ont augmenté depuis un certain nombre de décennies. La crise de 2008 n'est pas allé dans la bonne direction, et la pandémie non plus. Ça va accroître les inégalités pour les raisons qui viennent d'être mentionnées.
Et
il y aura aussi des inégalités entre les pays, parce que les pays riches vont recevoir les vaccins plus tôt, vont pouvoir se remettre sur pied plus rapidement, et les pays pauvres, ça leur prendra beaucoup plus de temps. Et ça augmentera les inégalités internationales. Et une inquiétude supplémentaire, c'est qu'au long terme, une fois que les effets de la COVID auront disparu, il y aura des tas de forces en place qui nous feront feront aller dans la direction de plus d'inégalités que de moins d'inégalités. Pensez à la mondialisation, à la technologie, la mondialisation, l'automatisation. Tout cela va mettre beaucoup de pression sur l'État-providence. Et ça n'est pas beaucoup d'espoir pour une amélioration dans un avenir prévisible.
Oui, vous n'imaginez pas comme à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale qu'au contraire, des élans de solidarité vont se mettre en place, que les liens se seront tellement disloqués dans nos sociétés que nous aurons besoin de refaire commun, de repenser comment vivre ensemble.
Oui, l'effet de la pandémie, c'est l'inverse de ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. En fait, la guerre nous avait rapprochés et la pandémie nous sépare. On nous demande de rester chez soi, de ne pas avoir de contact les uns avec les autres. Mais comment créer de la solidarité dans ces conditions? Donc évidemment, là, on comprend pourquoi la pandémie a accru plutôt que réduit les inégalités. Le problème clé ici, c'est la réaction politique. Ça dépend des politiques qui sont mises en place à la suite de cette pandémie. Quand la pandémie a commencé, il y a un an, les gens ont dit, c'est le moment, il faut saisir cette opportunité, cette occasion, mettre des politiques plus distributives. Et ça ne s'est pas passé. Et ça ne se passera pas. Il n'y a aucun signe qui l'annonce. Il va falloir, disent les politiques, restaurer le statu quo qui prévalait auparavant et préserver donc les hautes inégalités que l'on connaît depuis des décennies.
Mais parce qu'il y a quand même une note positive dans la conclusion de votre ouvrage, Une histoire des inégalités, Walter Scheidel. Vous dites que quand même, peut-être, le choc, ce choc de la pandémie peut devenir ou incarner une première. Hein. Ce serait la raison première, c'est-à-dire être une première dans l'histoire, et on peut imaginer qu'une nouvelle voie s'ouvrirait pour permettre une réduction des inégalités économiques sans que la violence en soit la raison principale.
On ne peut pas prédire l'avenir. Tout est possible au XXIe siècle, des choses qui se produiraient qui ne sont pas produites précédemment. C'est une raison d'espérer. Mais si vous regardez les précédents de l'histoire, c'est pas très probable d'avoir ou d'aller dans cette voie. Mais si vous cherchez une force égalisatrice à l'avenir, ça sera pas la pandémie. Ça sera le changement climatique. Le changement climatique peut réactiver certaines de ces forces qui créent des guerres, des révolutions, de nouvelles maladies peut-être, et peut-être qu'elles vont faire que les États vont s'effondrer. C'est pas un scénario désirable, mais finalement, tout cela pourrait réduire l'inégalité, de la même chose qu'on a pu l'observer par le passé.
Non, mais les trois autres scénarios, les trois autres cavaliers du nivellement, comme vous les nommez, Walter Scheidel, ne sont pas plus désirables et il reste à espérer quand même qu'ils n'adviendront pas à l'avenir, même pour réduire les inégalités. J'aimerais qu'on termine avec une question sur les États-Unis où vous enseignez et où vous vivez aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la question des inégalités économiques sera au cœur des sujets politiques de demain avec cette nouvelle présidence de Joe Biden?
Cette question est déjà prominente au cours des dernières années, au cours des campagnes aussi, mais si vous regardez les résultats de la dernière élection, il n'y a aucune grande raison d'optimisme. On a un centriste à la Maison-Blanche. On a un équilibre bloquant au Congrès. Donc il est peu probable que des réformes de grande transformation seront initiées dans les années à venir. Il semble que maintenant, même ces chocs ne seront pas suffisants pour changer la direction actuelle de l'économie américaine.
Même avec un Bernie Sanders à ses côtés, comme on a pu le voir le jour de l'investiture, avec ses gants.
Ah, c'est une superbe photo, parce que en fait, Bernie Sanders, il était assis, mais tout seul, avec son anorak et ses moufles. Et c'était une image très symbolique. Il n'était pas au centre des choses, il était à la marge. Et ça symbolisait la façon dont ce mouvement particulier avait échoué à capturer la majorité. Les forces qui sont en place vont mener à ce qui se passait avant, remettre en place la normalité, mais pas de changement, pas de transformation auquel ils avaient appelé, lui et sa plateforme.
Et du côté de l'Europe, vous qui êtes autrichien, Walter Scheidel, est-ce que ça va beaucoup mieux ou pas tellement mieux ?
L'Europe a eu quelque chose de, une expérience plus positive parce qu'elle a été affectée beaucoup plus fortement par la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, aux États-Unis, c'est différent. La redistribution, c'est différent aussi. En France, en Autriche, les choses ne vont pas aussi mal que dans d'autres parties du monde. On voit des tendances semblables, mais les institutions et la politique, les politiciens ont fait plutôt un travail plutôt bon restreignant les inégalités. Et nous espérons que ça pourra continuer de ce point de vue-là.
Je le disais en introduction, Louis Chauvel compare votre livre, votre histoire des inégalités au capital de Thomas Piketty, un capital généralisé aux grandes civilisations du monde. Alors, est-ce que vous lui avez envoyé à Thomas Piketty votre livre ?
Oui, je lui ai apporté et il m'a encouragé. En fait, au départ, il m'a inspiré, c'était un modèle pour moi. Il a inspiré le projet. Il a dit qu'il était content que quelqu'un confirme ses hypothèses qui étaient essentielles, par exemple, dans la réduction des inégalités. Mais il y a un désaccord entre nous. Parce que lui, il est en faveur du changement actuel. Et je crois que ce que lui a découvert et ce que moi j'ai découvert dans les archives de l'histoire rend difficile le fait que l'activisme pacifiste ou pacifique fasse la différence à l'avenir. Ça sera un problème pour les jours à venir et les années à venir.
C'est effectivement ce que vous écrivez et l'on terminera avec ces mots de vous, extraits de votre histoire des inégalités de l'âge de pierre à aujourd'hui. Walter Scheidel, à en croire l'histoire, les réformes politiques pacifiques pourraient bien ne pas être à la hauteur des épreuves qui nous attendent. Mais quelle alternative ? Nous tous qui attachons tant d'importance à la réduction des inégalités économiques, nous ne devons pas oublier qu'à de très rares exceptions près, elle n'a jamais vu le jour autrement que dans la douleur. Méfie-toi de tes rêves, dit le proverbe. Merci beaucoup à vous, Walter Scheidel. Merci.
Thank you for having me.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Et un grand merci à Michel Slotowski pour sa traduction. Je rappelle que votre ouvrage, Une histoire des inégalités, vaste histoire, vient de paraître chez Actes Sud. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Jean Bulot et Laura Ditech-Pérez pour La Grande Table des idées, à Henri Leblanc et Oriane Delacroix pour La Grande Table culture. Merci beaucoup à Madeleine Martineux et à Cathy Renaud pour leur aide précieuse. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau avec Clément Daté. Bel après-midi à tous sur France Culture.